le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant. Ce matin, je vous propose d'aborder un sujet inépuisable et fondamental, la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que la grâce et en quoi cette grâce s'est-elle manifestée d'une manière unique en Jésus-Christ? Nous en parlons de suite avec notre invité. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Chanda Derylus, enseignante et missionnaire à Jeunesse en Mission. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jeunesse en Mission, le mot mission, c'est un mot qu'on emploie pas tous les jours dans notre vocabulaire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est Jeunesse en Mission?
Jeunesse en Mission, c'est une organisation missionnaire qui est dans le monde entier, qui a été créée par Lorraine Cunningham en 1960 et qui a pour but de connaître Dieu, donc d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une relation avec Dieu et aussi de partager son amour dans le monde entier.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager dans Jeunesse en Mission?
Pour moi, donc j'ai 24 ans là et en 2014-2013, je venais de finir mon bac et je savais que j'avais envie de faire quelque chose de plus grand que moi dans ma vie. Toute mon enfance, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait « Ok, je suis acceptée à l'université et c'est une bonne idée », mais dans mon cœur, il y avait ce désir de faire quelque chose de plus. Et donc, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé une base donc qui s'appelle Jeunesse en Mission Biarritz, dans le sud de la France, et j'y suis allée pour 6 mois pour un projet, donc de 6 mois d'une école de formation. On appelle ça une école de formation de disciples et c'est une école qui nous permet d'apprendre plus par rapport à notre propre relation avec Dieu et qui aussi nous permet d'apprendre à le faire connaître et donc à partager notre foi. Et pendant ce temps, en fait, au bout de 2 semaines de mon séjour là-bas, je savais que c'était quelque chose qui était vraiment un appel dans ma vie, donc quelque chose qui était une vocation que je devais faire pour tout le reste de ma vie. Et donc, ça a commencé en 2014 et quelque chose qui devait durer 6 mois, ça fait déjà 6 ans maintenant.
Et quel a été le déclic dans ces quelques semaines ou dans ces 6 premiers mois?
Le déclic pour moi, c'était donc d'avoir pu en fait voir combien de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de connaître Dieu, ça peut transformer une vie. Et donc pour moi, dans les moments de classe, les moments où j'étais avec d'autres camarades d'école, les moments de partage, mais aussi les moments où de réalité en fait, où on partageait réellement ce qui se passait dans nos vies et ce qu'on sentait que Dieu nous mettait à cœur, ça m'a vraiment fait voir une nouvelle vision de qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi. Parce que c'est bien d'avoir la foi le dimanche matin, mais il y a quelque chose qui est de vivre chaque jour en fait dans ce dont on croit. Sans ce par quoi on croit. Et donc, à ce moment-là, alors que je vivais donc chaque jour où j'apprenais plus par rapport à Dieu, j'ai vraiment réalisé que c'était pas quelque chose que je voulais seulement faire juste quand j'allais à l'église le dimanche, mais que je voulais vivre dans ma vie. Et donc, de regarder dans la Bible et d'étudier la Bible m'a vraiment fait comprendre que c'était quelque chose qui une invitation, en fait, pour moi que Dieu me donnait. Donc, de vivre chaque jour pour lui.
Oui, parce que dans ce côté missionnaire, il y a un engagement total.
C'est ça, exactement, oui.
Alors, on parle beaucoup du partage de la foi, du témoignage de la foi depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut faire peur dans la société. Comment vivre ce partage de la foi de manière positive sans tomber dans le prosélytisme?
Bah écoutez, pour moi c'est très simple, c'est d'avoir la bonne volonté d'avoir une conversation. Pour moi c'était depuis le début quelque chose qui m'intéressait vraiment parce que j'avais toujours cette image de faire de la mission, de faire de l'évangélisation, ça veut dire de se tenir dans les rues et de crier très fort aux gens.
Et c'est pas ça.
C'est pas comme ça que je le fais en tout cas. Et il y a différentes manières de le faire. Je suis pas contre ça, mais il y avait aussi cet aspect de relationnel que j'ai vraiment vu dans la Bible en fait en regardant à la manière dont Jésus partageait par rapport à son message par rapport à qui il est, qui était de rencontrer le jour à jour, au jour, les gens, en fait, dans la rue, que ce soit dans la rue ou que ce soit dans ses différents déplacements. Et pour moi, c'était quelque chose qui m'a vraiment impacté aussi de me dire qu'il faut vraiment être, avoir la bonne volonté d'avoir une conversation avec la personne qui se tient devant vous. Parce que c'est pas juste une autre personne, mais c'est quelqu'un. C'est une personne qui a une histoire, qui a eu un vécu, qui a aussi des difficultés de croire pourquoi Dieu si je souffre, par exemple. Il y a 3 ans à peu près, j'étais dans un camp de réfugiés en Grèce et j'ai eu l'occasion de servir, en fait, et d'aider dans ce travail humanitaire, dans un sens, où je devais distribuer de la nourriture, où je devais distribuer des vêtements, mais où je n'avais pas le droit de partager ma foi, sauf si quelqu'un me demandait spécifiquement la question par rapport à ma foi. Et donc, pour moi, je savais que j'étais appelée à y aller, que c'était quelque chose qui était vraiment dans mon cœur.
C'était auprès des migrants,
c'est ça. Ouais. Des migrants donc, qui venaient d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran, d'un peu partout dans le monde. Il y avait plus de 4000, 5000 différents migrants, en fait, dans ce camp. Et quand j'y étais, donc j'avais pas forcément le droit de partager ma foi, mais il y avait quelque chose qui était bien plus grand que les autres ont vu, en fait. Et juste en distribuant des vêtements et en donnant de la nourriture, je me rappelle différentes personnes qui venaient me voir et me disaient, écoutez, vous marchez et vous nous aidez et je vois des volontaires partout dans le camp qui font ça, mais il y a quelque chose de différent par rapport à vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous mène, vous, venu de France, à venir jusqu'en Grèce pour m'aider, moi, qui a fui un pays de guerre? Et à ce moment-là, je leur disais simplement, ben, je suis ici parce que je sens que Dieu veut te dire qu'il t'aime. Et de là commençait une discussion où on pouvait partager nos cœurs, notre foi aussi, d'entendre leurs difficultés, parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'était pas seulement la difficulté du lundi matin qui est un peu compliqué, il n'y a pas de métro. C'était vraiment des choses où ils ont perdu leur famille, ont des situations de guerre et où leur propre foi a été mise en doute parce que les attaques qui se passaient dans leur vie, c'était par des gens qui avaient une foi commune avec eux. Et donc, avec cela, et invité par eux, j'ai pu avoir une conversation. Et c'était toujours ouvertement une conversation où je partageais mon vécu avec Dieu et ce qui les menait, eux, à partager vraiment leurs questions par rapport à Dieu. Et j'y répondais selon ma compréhension. Et c'était vraiment des très bonnes conversations qui étaient juste basées sur des cœurs à cœur et pas juste des têtes à têtes ou des disputes qui venaient juste de mots ou d'utiliser de grands mots. Mais c'est simplement une personne est devant moi et je veux l'aimer de la manière dont Jésus l'aimerait.
Donc c'est important de prendre un petit peu de distance avec un modèle où on croit que témoigner de sa foi, c'est chercher à convaincre, à prendre le dessus, à s'imposer, à pas écouter l'autre.
Ouais, absolument. Je pense que c'est de le faire comme ça, c'est de n'avoir pas compris vraiment ce que Dieu nous appelait à faire. Dans la Bible, quand on regarde à la Bible, quand on voit la manière dont Jésus communique, il y a jamais un moment où il forçait à communiquer son message aux gens qui voulaient pas l'entendre. Il y a des endroits où il a même pas partager son message parce qu'il ne voulait pas l'entendre. Et c'est de voir en fait qu'il y a des cœurs qui sont prêts et qui veulent écouter, il y a des cœurs qui ne veulent pas et c'est pas à moi de décider de ça. Moi, tout ce que je veux, c'est être ouverte et donc et d'aimer celui qui est devant moi.
Alors pour témoigner de sa foi, il faut savoir de quoi on veut témoigner, c'est-à-dire quel mot on pose sur sa foi. Un des mots de la foi, c'est la grâce. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème de la grâce ce matin?
Alors, c'est une très bonne question et c'est aussi une réponse très simple. C'est parce que je pense réellement que c'est quelque chose qu'on a besoin à chaque jour, dont on a besoin à chaque jour. Pour moi, de réaliser que je crois en Dieu, ce n'est pas le seul moment où je me suis dit « Ah, j'ai besoin de la grâce de Dieu ». Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à suivre Dieu en tant qu'enfant, ce n'était pas seulement à ce moment que j'avais besoin de la grâce de Dieu, mais vraiment cette réalisation que chaque jour, hier j'en avais besoin, aujourd'hui j'en ai besoin, demain j'en aurai besoin, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans la grâce que Dieu m'a donnée.
Et donc ça veut dire quoi le mot grâce quand vous dites vivre chaque jour de la grâce de Dieu?
La grâce, je pense que ça, c'est en premier lieu l'amour de Dieu. C'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a tant aimés. Qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'il a donné son Fils pour nous. Et donc la grâce, c'est cette compréhension que c'est une faveur qui n'était pas méritée, mais que Dieu nous donne quand même juste par pur amour pour nous et non par désir de recevoir quelque chose de nous.
Eh bien, je vais vous laisser l'opportunité de développer ça dans la méditation que vous avez préparée pour nous et qui commence d'ailleurs par une petite histoire.
C'est ça. En 1743, John Newton, un homme anglais né dans un quartier de Londres, devint capitaine sur un navire britannique. John Newton, qui avait eu une enfance difficile, se trouve à la direction d'un navire servant à la traite des esclaves noirs. Connu pour sa dureté et cruauté, John Newton suit ce chemin de vie jusqu'en 1748. Un jour, alors qu'il se trouve en mer, une tempête éclate. Il se retrouve coincé en mer, proche de la mort et face à face avec ce qu'il semble être la fin. Il crie vers Dieu pour recevoir de l'aide. Il ne mourut pas ce jour-là et en revenant sur la terre ferme, il réalise son insignifiance et le pouvoir de la grâce de Dieu qui le sauva ce jour-là. Il renonce donc à sa vie de trafiquant négrier et devient prêtre anglican. Et il consacre la fin de sa vie à la lutte pour l'abolition de l'esclavage, même devenu aveugle. Il meurt en 1807, l'année de l'abolition de la traite au Royaume-Uni. Durant sa vie, il écrit une chanson connue de beaucoup qui s'appelle « Amazing Grace ». Les paroles de cette chanson en anglais sont « Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. T'was blind, but now I see. » La traduction de cette chanson est « Grâce incroyable, quel doux son, qui m'a sauvé. Moi qui étais misérable, j'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Il y a quelques semaines, en entendant cette chanson, je me suis mise à réfléchir. Et cette question m'est venue à l'esprit. Quel est le son de la grâce? Quand nous regardons la vie de John Newton, nous voyons clairement qu'il était un homme perdu et ravagé. Il vendait des êtres humains et n'avait aucune pitié pour les autres. Mais quand la grâce de Dieu l'a touché, il a été transformé. Mais qu'est-ce que la grâce? Voici comment nous pouvons la définir. Une faveur non méritée qui nous est donnée. Que ce soit le pardon ou une bénédiction, la grâce peut aussi être décrite comme une faveur donnée par Dieu. Selon les mots de T.D. Jakes, évêque et pasteur d'une église non dénominationnelle aux États-Unis, la grâce est la force qui nous permet de résister au vent et aux forces de l'opposition. Car la grâce ne dépend pas de nous. Nous recevons la grâce de Dieu sur la pure base de son amour et de notre volonté de l'accepter. Je me rappelle, étant plus jeune, que je me demandais comment montrer à Dieu encore plus mon amour pour lui, ou comment est-ce que je pouvais grandir dans ma relation avec lui. J'allais souvent pendant l'été faire des camps de jeunes chrétiens pour aider les autres dans le besoin, que ce soit les personnes âgées isolées ou des sans-abri sous les ponts de Paris. Mais il y avait dans mon cœur une fausse image de Dieu. Car dans mon cœur, mes actions seules pouvaient me rapprocher de lui. Et en vivant de cette manière, j'avais constamment cette image de Dieu comme un père colérique et distant et insatisfait de mes actions et de ma performance. Une partie de la manière dont nous voyons Dieu est basée sur nos relations les uns avec les autres. Que ce soit un parent, un professeur ou un ami. Malheureusement, l'être humain n'étant pas parfait, il lui est impossible d'être l'image parfaite de la grâce. Donc, si nous cherchons à recevoir gratuitement de l'aide, de l'amour ou même du pardon de la part d'un autre être humain, cela sera toujours limité. Mais avec Dieu, la grâce est et sera toujours infinie et illimitée. C'est pour ça que nous devons chercher à la recevoir premièrement auprès de Dieu. Et comment recevoir la grâce de Dieu? C'est d'abord accepter le pardon et la liberté de Dieu, malgré nos échecs et erreurs. Et ensuite, accepter le fait que cette faveur n'est pas à lui rendre ou à rembourser. L'une des caractéristiques de la grâce de Dieu, c'est qu'elle est donnée gratuitement et sans aucun mérite. Imagine un jour, ton meilleur ami vient vers toi avec un cadeau. Il t'offre quelque chose dont tu avais désespérément besoin et que tu ne pouvais pas t'acheter. Et imagine si ta première réaction est de lui dire « Merci beaucoup pour le cadeau. tu peux me donner le ticket de caisse et comme ça, je peux te rembourser dès que possible. Tu n'appellerais pas cela un cadeau, mais une dette. Et pour comprendre pourquoi la grâce n'est pas méritée, mais que Dieu qui est juste nous la donne quand même, nous devons regarder dans la Bible à Genèse et à la création du monde. Les premiers chapitres de Genèse nous expliquent la création des cieux et de la terre. Des étendues des eaux jusqu'à l'humanité, Dieu créa toutes choses. Après cela, Dieu donne à Adam et Ève la tâche de prendre soin de la terre en leur donnant la mise en garde de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car la conséquence serait leur mort. En continuant à lire, nous voyons que Adam et Ève choisissent de prendre ce fruit et donc par ce choix, ils désobéissent à Dieu et brisent sa confiance. Dieu avait pourtant pour projet d'avoir une relation parfaite et harmonieuse avec les êtres humains. Ce qui se passe ensuite, nous pouvons le lire dans Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix. » D'autres versions disent « J'ai entendu le son de ta venue. » Dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Ils se retrouvent expulsés du jardin, car en ayant mangé de ce fruit et désobéi à Dieu, ils ont commis ce qui s'appelle le tout premier péché. Un péché est une action ou un comportement qui brise la loi et les directions données par Dieu. Le péché ne brise pas seulement la loi de Dieu, mais aussi son cœur, car il désire ardemment être en relation avec nous. Et lorsque nous choisissons de commettre une action qui brise sa loi, nous choisissons de nous distancer de lui. Et lorsque nous faisons cela, nous brisons la nature pure et parfaite de ce que Dieu nous donne. C'est pour cela que Dieu a dû expulser Adam et Ève du jardin. Car en mangeant du fruit de l'arbre défendu, ils ont entaché la perfection du jardin où Dieu les avait placés. Donc, il les a retirés de la perfection, car ils n'étaient plus parfaits et ils n'avaient pas leur place au milieu de ce qui était parfait et sans faute. Mais malgré cette expulsion et cette distance, Dieu avait toujours envie d'une relation avec les êtres humains. C'est pour cela que plus tard, Dieu envoya son Fils. Cela a permis de restaurer notre relation avec lui et d'offrir la possibilité du salut. Il nous délivre de la conséquence de nos actions, qui est la mort, et nous donne l'opportunité de partager notre vie avec Dieu. Que l'on soit pauvre, riche, malade, saint, femme, homme, peu importe notre passé, Jésus nous a permis de venir à Dieu, le Père, grâce à la repentance. Chacun a la possibilité de reconnaître les moments où il a brisé la loi de Dieu et de s'en détourner pour marcher dans la direction opposée. C'est cela qui sauve, et non nos bonnes œuvres ou notre travail acharné. Et c'est ça la grâce. La nature de la grâce que Dieu nous a donnée me dépasse. Elle remet en question le mensonge qui dit que tout ce que nous avons a un prix que nous devons payer. Car la grâce de Dieu ne nous demande pas de payer un prix, mais d'abandonner ce qui, en premier lieu, ne nous procurait rien de bon. c'est-à-dire ce qui se trouve hors des lois et des commandements de Dieu pour nos vies. Tout ce qui conduit l'être humain vers la mort et non vers le chemin de vie tracé par Dieu. Dieu nous invite à être en relation avec lui, car c'était son projet depuis le départ. Par cela, il nous invite à croire en lui. Pour en revenir au texte de la Genèse, il est important de comprendre pourquoi la désobéissance, le péché, ont pour conséquence la mort. Car lorsqu'on s'oppose à Dieu, nous nous rebellons contre celui qui a créé la vie et qui est la vie elle-même, et donc par cela marchons vers son opposé, la mort. C'est pour ça qu'au verset 21 de Genèse 3, nous voyons que Dieu a tué un animal pour les habiller d'une peau de bête et ainsi couvrir la nudité que le péché d'Adam et Ève a causée. Car Dieu, par amour pour Adam et Ève, a préservé leur vie malgré leur désobéissance et a sacrifié la vie d'un animal au lieu de la leur. La découverte de leur nudité physique était l'image de la découverte de leur nudité spirituelle, car ils avaient choisi de ne pas marcher sous la protection de Dieu en n'obéissant pas à ses lois. La première mort de la terre a été celle d'un animal pour couvrir le péché. Ainsi se réalise ce que Dieu dit à Adam et Ève lorsqu'il leur dit que la mort serait la conséquence du péché s'ils venaient à manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais dans son amour, au lieu de tuer Adam et Ève, Dieu a épargné leur vie et a remplacé leur mort par le sacrifice d'un animal. Après cela, nous voyons cette pratique se perpétuer dans la Bible de manière constante. Le peuple de Dieu est appelé à sacrifier un animal en tant que victime à leur place pour leur péché. Mais malgré tous les sacrifices, le mal a continué à se propager et la vie de tous les animaux n'a jamais suffi à réparer totalement la relation entre Dieu et les hommes. Et il fallait toujours sacrifier de nouveaux animaux. Il fallait donc mettre fin à tous ces sacrifices inutiles qui ne provoquaient pas de changement dans les comportements. C'est pour cela que Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, est venu sur terre et a vécu une vie parfaite. Il n'a pas menti, il n'a pas volé, il n'est pas tombé dans l'orgueil, il a passé sa vie sans jamais briser la loi, et il est mort d'une mort injuste pour nos péchés. Il est mort sur une croix uniquement car il a proclamé la vérité de son identité en tant que Fils de Dieu. Il n'a pas péché, même pas une fois, et il a pris chacun de nos péchés et leurs conséquences sur lui lorsqu'il est mort à la croix. Il est mort en tant que victime innocente sans défaut ni quoi que ce soit de contraire à sa nature d'être parfait. La grâce de Dieu n'est pas un concept éloigné, mais elle est proche de nous et de notre identité. Et nous devons la garder près de notre cœur, parce que la grâce ne semble jamais juste jusqu'à ce que nous réalisons à quel point nous en avons besoin. Pour comprendre cela, nous devons regarder nos propres vies. Pour moi, ce moment était pendant l'été de mes 17 ans, où dans un moment de désespoir, j'ai pensé que mourir était préférable à la vie que je menais. Je pensais que quoi que je fasse, les choses n'allaient jamais se passer comme je l'aurais souhaité, malgré la poigne ferme de contrôle que j'essayais d'avoir sur ma vie. C'est alors que Dieu est venu dans ma vie me montrer que le contrôle de ma vie est quelque chose que je devais abandonner et que je devais apprendre à lui faire confiance malgré l'inconnu. Nous avons besoin de la grâce parce que vivre sans cette grâce est épuisant et qu'il est impossible de trouver la vraie vie sans celui qui est la vie même. Dans la Bible, un verset résume bien tout cela. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Il est mort pour nous. Il ne serait pas mort pour quelque chose qui n'avait aucune valeur. Donc, nous avons une grande valeur à ses yeux. Et voilà ce qu'est la grâce de Dieu pour moi. L'opposé de la grâce de Dieu, c'est de croire que nous n'avons pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est-à-dire se dévaloriser, se croire bon à rien ou inutile. C'est aussi parfois la fierté qui nous pousse à nous dire que nous n'avons pas besoin d'amour. Alors n'oublions pas la valeur que Dieu nous a donnée à la croix. John Newton, l'homme dont nous parlions au début de ce message, a déclaré au sujet de la grâce. Seule l'incroyable grâce de Dieu peut et a pris un marin grossier, profane et marchand d'esclaves et l'a transformé en un enfant de Dieu. Avant de vous quitter, la dernière image que j'aimerais partager avec vous nous vient de Genèse 3. Nous avons lu que Adam et Ève se sont cachés car ils avaient entendu le son de la voix de Dieu qui marche dans le jardin. Et je crois sincèrement que dans sa grâce et par son sacrifice, Dieu restaura notre conception du son de sa voix. Car la grâce de Dieu correctement comprise nous pousse vers Dieu au lieu de loin de lui. Elle nous attire et nous permet de comprendre que la voix de Dieu magnifique et puissante n'est pas effrayante, mais nous apporte la paix et la vérité dans la grâce. La grâce rétablit la vérité du son de Dieu que nous entendons dans le jardin, apportant la paix dans notre cœur et effaçant la peur du jugement. Parce que la grâce, bien comprise, est ce qui nous permet de marcher joyeusement dans la repentance, qui est la confession de nos péchés devant Dieu et les hommes. Car nous comprenons que lorsque nous nous repentons, Dieu ne nous condamne pas, mais en fait nous permet de marcher dans la vérité et la vie. Pour moi, avec la révélation de la grâce que Dieu m'a donnée, la grâce ressemble à Dieu qui marche vers moi, alors que je marchais dans le péché et qui m'appelle à tout laisser derrière moi pour le suivre. Dieu marche vers moi et il n'y a rien entre lui et moi. Je n'ai rien à cacher et je n'ai pas peur du son de sa voix ni du bruit de ses pas. Je n'ai plus peur. Il vient, il me prend dans ses bras et dit simplement et tendrement « Tout a été accompli. Tout a été accompli dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc simplement viens et trouve ton repos en moi. » Et c'est ça le son de la grâce de Dieu.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
J'étais en compagnie de Chanda Derilus, enseignante et missionnaire à Jeunesse en Mission. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Alain Joubert pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantpluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bonne journée à vous sur France Culture.
Than when we first begun.